présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel Laurentin, bonsoir à toutes et à tous. Rendez-vous le 28 juin pour le deuxième tour des élections municipales. Si tout se passe bien d'ici là, Édouard Philippe s'est montré prudent tout à l'heure en annonçant sa décision en pleine épidémie de Covid-19. Les mesures de protection des électeurs et des assesseurs ont été détaillées dans la foulée par son ministre de l'Intérieur. On retrouve Pierre Neveu dans un instant. En Chine, c'est inédit, le gouvernement n'annonce aucune prévision de croissance pour 2020. Preuve nouvelle que les conséquences économiques de l'épidémie en Chine seront importantes, même si Pékin dit avoir triomphé du coronavirus. Reportage à l'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois, Dominique André. Et puis, le griot électrique est mort. Immense joueur de kora, défenseur de la musique africaine et guinéenne, Mori Kanté est mort ce matin à Conakry. 16 millions d'électeurs seront probablement convoqués le dimanche 28 juin pour le deuxième tour des élections municipales. 4897 communes précisément sont concernées. Pour les autres, les conseils municipaux élus dès le premier tour doivent être installés dans les jours qui viennent. La décision d'aller au plus vite pour l'organisation de ce second tour a été annoncée tout à l'heure par le Premier ministre Édouard Philippe, avec néanmoins un filet de sécurité législatif au cas où. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Benoît.
Au cas où l'épidémie de Covid-19 viendrait à reprendre, évidemment. Pour cette raison, une clause de revoyure est prévue avec le Conseil scientifique dans les deux semaines. Et notons aussi, Pierre, que cette décision est assortie d'un grand nombre de mesures de prévention.
Et c'est par la concertation avec les associations d'élus que le Premier ministre veut organiser ce deuxième tour de scrutin. Concertation pour définir de nouvelles règles, à commencer par le recueil des procurations qui sera simplifié. Le président de la commission des lois du Sénat propose cet après-midi de faciliter l'établissement de plusieurs procurations à une seule personne. Dans cette campagne, les candidats sont invités à innover. Faute de réunion publique, ils devront convaincre de manière virtuelle sur Internet. À eux d'être inventifs pour faire passer leurs idées, explique Édouard Philippe, qui promet une campagne électorale de plusieurs semaines. Le ministre de l'Intérieur invite également les candidats et les électeurs à porter un masque, à respecter les gestes barrières, le temps de la campagne, ainsi que le jour du vote. Le gouvernement prend ses responsabilités, souligne Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, alors que les élus France Insoumise dénoncent un déni de démocratie. Pour l'exécutif, comme pour une majorité de la classe politique, il fallait clore au plus vite cette page de municipale engagée il y a maintenant plus de 2 mois. On remarquera que le Premier ministre n'a pas souhaité associer la représentation nationale à sa décision, alors qu'il avait envisagé un débat suivi d'un vote. Et pour couper court à toute critique et afficher un peu plus son autorité sur fond de rumeurs de remaniement, eh bien Édouard Philippe revendique cette prise de décision. « J'assume », a-t-il martelé à 5 reprises, tout en précisant bien que cette décision sera réversible si les conditions sanitaires ne permettent plus d'assumer normalement le second tour de ces municipales le dimanche 28 juin prochain.
Merci Pierre Neveu. La mairie de Bobigny va devoir réévaluer ses modalités d'accueil des jeunes élèves d'ici aux grandes vacances et quoi qu'il en soit avant septembre. Demande du tribunal administratif de Montreuil qui a estimé aujourd'hui que la fermeture jusqu'à la rentrée de septembre des écoles maternelles à Bobigny porte atteinte gravement et de manière illégale au droit de l'éducation. La mairie centriste a jusqu'au 3 juin pour prendre des mesures plus proportionnées aux risques sanitaires encourus, d'après la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Autre décision de justice qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les assureurs en ces temps d'épidémie. Le tribunal de commerce de Paris a jugé recevable aujourd'hui la demande d'un restaurateur parisien. Il demande à son assureur, AXA, des indemnisations pour ses pertes d'exploitation durant le confinement. Ça concerne 2 mois de chiffre d'affaires perdu. AXA a annoncé immédiatement son intention de faire appel.
Et puis les syndicats de salariés de l'enseigne d'ameublement Conforama ont rendez-vous ce soir avec le ministère de l'économie, Benoît.
En visioconférence, bien sûr. Ils demandent au gouvernement des informations fiables sur le sort de leurs 9000 collègues. L'entreprise Conforama est en difficulté. Une demande de prêt garanti par l'État récemment n'a pas abouti et on en avait parlé ici même, le concurrent But est très intéressé. Annabelle Grelier.
C'est une partie de poker menteur qui se joue depuis quelques semaines entre les deux enseignes concurrentes. Conforama, en grande difficulté, assure que But ne lui a pas fait de proposition de reprise sérieuse. But, de son côté, affirme qu'il est prêt à une reprise totale de son rival, c'est-à-dire le maintien de l'ensemble des emplois, le financement du PSE, acté en 2019, prévoyant 1900 suppressions de postes, et la préservation de tous les magasins. À cela s'ajouteraient même les dettes aux fournisseurs. Des conditions de reprise qui auraient été posées par Bercy. Un comité interministériel de restructuration industrielle a lieu en ce moment même pour faire le point avec les syndicats de Conforama qui ne savent plus à quel sein se vouer ni s'il faut croire en ces annonces. Car la reprise de Conforama par But pose un autre souci. Les fournisseurs sont inquiets de ce mariage qui réduirait la concurrence et donc leur prix. Là encore, Bercy, pour donner son feu vert, aurait demandé à But de signer un contrat de filière et à s'engager sur des commandes de volume de meubles sur 3 ans. Des conditions qui pourraient rassurer la filière bois et fabricants de meubles qui compte 110 000 emplois.
Explication d'Annabelle Grelier.
C'est aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité.
Occasion saisie par Emmanuel Macron, le président de la République, pour annoncer tout à l'heure via les réseaux sociaux la tenue en janvier prochain, janvier 2021, d'un important sommet international à Marseille, le One Planet Summit, ou sommet de la Terre unique pour le prononcer en essayant de sauvegarder la diversité linguistique, aura lieu le 11 janvier 2021 pendant le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, événement qui avait été repoussé parmi tant d'autres en cette année si particulière. Véronique Roberotte.
L'année 2020 s'annonçait comme une année décisive pour tenter de stopper le déclin de la biodiversité. Deux rendez-vous majeurs ont été repoussés pour cause de pandémie. Le Congrès mondial de la nature, prévu en France, il se tiendra finalement en janvier 2021, toujours à Marseille, renforcé par un sommet mondial. La COP15 de la biodiversité, sous l'égide des Nations Unies, a elle aussi été décalée. Elle devait avoir lieu en Chine cet automne. La pandémie de coronavirus viendra donner à ces rendez-vous une autre importance. Elle nous rappelle que préserver la biodiversité, c'est préserver la nature dans son ensemble, et donc l'homme et sa santé. Si la pandémie trouve son origine chez la chauve-souris ou le pangolin, c'est bien l'activité et la pression humaine sur la nature qui a favorisé son passage à l'homme. La liste est longue, des atteintes à la biodiversité, déforestation, altération des sols, destruction et fragmentation des milieux naturels, surexploitation des espèces. Plus d'un million d'espèces animales et végétales sont en danger d'extinction selon les estimations des spécialistes. Si rien ne bouge, d'autres pandémies suivront inévitablement, s'inquiète Antonio Guterres. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité, alerte le secrétaire général des Nations Unies.
Véronique Roberotte. La session annuelle du Parlement chinois s'est ouverte ce matin à Pékin avec un discours du Premier ministre devant près de 3000 délégués dûment masqués et dépistés pour l'occasion. Le gouvernement chinois n'a pas manqué de vanter une réussite majeure dans le combat contre le coronavirus tout en reconnaissant que le choc économique serait très difficile à surmonter dans les mois qui viennent. D'ailleurs, c'est inédit. Aucun objectif de croissance n'a été énoncé aujourd'hui. La population en Chine est très inquiète des conséquences économiques de cette épidémie. Reportage à Pékin de Dominique André.
Le succès remporté contre l'épidémie a eu un prix élevé, a reconnu Li Keqiang. Les Pékinois en savent quelque chose, la vie est plus chère, le prix de la viande de porc a augmenté et les familles chinoises sont touchées par le chômage ou la réduction des salaires. Li Chanyan, patron d'un restaurant, est soulagé après le discours du Premier ministre, même s'il pense que les mesures ne suffiront pas.
Ma petite entreprise vient tout juste de rouvrir, mais je n'ai pas encore tous mes employés qui n'ont pu rentrer à Pékin pour reprendre le travail. C'est très dur. Depuis le premier trimestre, je ne paie pas de taxes sur les factures. Je voudrais que le gouvernement annonce encore plus de mesures pour le redressement de l'économie, en baissant encore d'autres charges pour les petites et moyennes entreprises.
Cet employé a 59 ans. Il est heureux que le gouvernement tienne son engagement de revaloriser les retraites. Il est bientôt concerné. 5% d'augmentation des retraites des employés cette année, c'est une bonne nouvelle. Mais j'espère aussi que le gouvernement offrira plus d'emploi et que les salaires aussi seront augmentés, comme les retraites. Un emprunt d'État de 128 milliards d'euros et un plan d'investissement de 481 milliards d'euros ont été annoncés. Et il faudra se serrer la ceinture, a lancé Li Keqiang, aussi bien au niveau du gouvernement central que local.
À Hong Kong, la crainte d'un nouveau tour de vis chinois et de possibles nouvelles violences, avec le retour d'un projet de loi sur la sécurité nationale que Pékin souhaite imposer à la région semi-autonome, les militants pro-démocratie y voient une volonté de les priver de leur liberté par la force et la peur. Ils appellent déjà à un premier rassemblement dès dimanche.
En Inde, la suspension du code du travail ne passe pas. Un mouvement d'action a eu lieu aujourd'hui à travers tout le pays à l'appel de syndicats très remontés, Benoît.
La décision de près de la moitié des États de l'Inde de favoriser la reprise économique post-Covid au détriment de la protection sociale des ouvriers notamment. Cette décision a donné lieu à une manifestation de protestation à New Delhi aujourd'hui. Manifestation écourtée par la police pour cause de Covid-19, comme a pu le constater notre reporter sur place à New Delhi, Sébastien Farsi.
Une vingtaine de dirigeants de 10 grands syndicats nationaux occupent une petite esplanade de l'est de New Delhi. Les policiers les suivent de près. Un tel rassemblement n'est pas autorisé en ces temps de coronavirus. Dans tout le pays, dit l'un d'entre eux, des travailleurs sont rassemblés depuis 6 heures du matin devant les usines pour protester contre l'annulation de toutes les lois du travail. Les grands états industriels de l'Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh, du Gujarat et une dizaine d'autres ont pris des mesures radicales pour relancer l'économie. Les droits des syndicats sont réduits, la journée de travail passe de 8 à 12 heures et les accidents du travail ne doivent plus être rapportés aux autorités. Certains changements doivent encore être approuvés par l'État fédéral qui s'est montré favorable à ces mesures. K. Emalata est la présidente de la centrale des syndicats indiens, CITU. Ils rétablissent les conditions de travail du 19e siècle, dit-elle, où les ouvriers sont quasiment des esclaves. Il est clair que c'est difficile de s'y opposer en ce moment à cause des restrictions sanitaires. Mais les travailleurs ne vont pas accepter cela. On parle de leur vie quotidienne. Les syndicats prévoyaient de mener une grève de la faim pendant toute la journée. Ils sont finalement délogés par les policiers au bout d'une heure.
Reportage de Sébastien Farsi à New Delhi au Pakistan. Un bilan toujours incertain mais qui pourrait être lourd. Un avion de ligne A320 s'est écrasé tout à l'heure sur un quartier résidentiel de la ville de Karachi. Avion de la Pakistan International Airlines. Il y avait une centaine de personnes à bord. Lutter pour la libération de la Palestine est un devoir islamique, a déclaré aujourd'hui l'ayatollah Ali Khamenei à l'occasion de la journée de Jérusalem en Iran. Cette commémoration a lieu tous les ans en solidarité avec les Palestiniens. Les propos du guide suprême iranien interviennent après une escalade verbale avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et un regain de guerre discrète entre les deux pays. Correspondance d'Aurélien Colli.
La cause palestinienne est le principal problème du monde arabe, a martelé l'ayatollah Khamenei en dénonçant la politique de normalisation du régime sioniste menée par les Américains et en accusant les pays arabes d'être leurs marionnettes dans cette entreprise. Des attaques sans grande surprise, mais qui interviennent alors qu'hier, la Ligue arabe a justement dénoncé les interférences iraniennes qui menacent la stabilité régionale et que la semaine a été ponctuée d'échanges cinglants sur Twitter entre les responsables iraniens, israéliens et américains. En fait, la phase visible des rivalités entre Téhéran et Tel Aviv. En coulisses, Israël poursuit ses bombardements en Syrie contre des cibles iraniennes ou proches de l'Iran, comme le Hezbollah libanais, allié au régime de Bachar al-Assad. En coulisses, l'Iran est derrière une série d'attaques informatiques contre des sites internet d'entreprises israéliennes, des municipalités, des ONG et même des installations hydrauliques civiles. Israël a pour sa part mené une cyberattaque contre un port iranien situé sur le détroit d'Ormuz, une voie de passage stratégique à la sortie du golfe Persique.
Aurélien Colli, les réactions à l'annonce hier des États-Unis désireux de se retirer du traité international ciel ouvert. Elles viennent, ces réactions aujourd'hui, de 10 pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne, 10 pays qui regrettent la décision de Washington tout en expliquant partager ses préoccupations sur la Russie, préoccupations qui ont servi de prétexte à Donald Trump pour annoncer sa décision. Le chanteur et musicien, joueur de kora guinéen, Mori Kanté, est décédé ce matin à Conakry. Rendu mondialement célèbre par son tube Yeke Yeke à la fin des années 80, il a largement contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. Il avait passé une grande partie de sa jeunesse au Mali et avait été, dans les années 70, du Rai Band de Bamako de Salif Keita. Yann Bertrand.
Ce n'est pas un vain surnom, le griot électrique est mort, un homme né dans un petit village guinéen devenu superstar dans le monde. Du Rayband de Bamako jusqu'aux plus grandes scènes, Mori Kanté aura assumé ce grand écart. Joueur de kora, héritier de traditions séculaires, il a très vite électrifié son talent. La modernité passait aussi par l'exil à Paris en pleine vague de la mal nommée world music des années 80. C'est donc un titre en particulier, Yeke Yeke, qui va le propulser numéro 1 partout dans le monde, lui apporter des récompenses, disque d'or et victoire de la musique. Ce fut un temps le musicien africain le plus connu dans le monde, avec Manu Dibango ou Salif Keïta. Depuis plusieurs années, il avait pris du recul, était revenu à ses racines, sortant toujours des albums, le dernier en 2012, La Guinéenne. Avec la disparition de Mori Kanté, l'Afrique perd un nouveau pilier.
Quand j'ai mal, tu es mon remède, tu es mon médicament quand j'ai le chagrin.
Voilà, reportage de Yann Bertrand sur la disparition ce matin de Mori Kanté. La météo pour demain, elle est changeante, annonce Météo France. Retour confirmé des nuages sur l'ensemble du pays, accompagné de précipitations dans l'après-midi. Les températures maximales seront largement en baisse, jusqu'à 23-24 degrés.